beaucoup, beaucoup travaillé. C'est Bertrand Dical qui est avec nous. Bonjour.
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 Je dis que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé parce qu'en fait, votre livre qui s'appelle Tout Gainsbourg reprend peut-être vraiment tout Gainsbourg, hein, puisqu'on passe les 1000 pages dans ce livre.
J'ai l'impression d'avoir plutôt résumé par moment. Mais c'est vrai que de toute façon, Gainsbourg demande ça. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre tellement vaste, il y a tellement de collaborations, il y a tellement de gens avec qui il a travaillé, il a abordé tellement de sujets, tellement de formes, tellement d'art, tellement de techniques, tellement de pratiques, que oui, c'est vrai que 1000 pages, c'est un bon début.
Alors, c'est un livre que vous aviez déjà sorti, mais il a été complété en réalité. Vous aviez déjà fait tout ce travail sur Gainsbourg, mais en fait, on n'est jamais totalement complet.
On n'est jamais totalement complet, surtout que la Gainsbourgologie fait toujours des progrès. Alors, il y a eu un travail énorme qui a été fait par Universal, il faut leur rendre hommage, la maison de disques historique de Serge Gainsbourg, qui a tout réécouté. Ça paraît complètement idiot comme ça, hein, mais ils sont allés dans les archives, ils ont sorti les bandes,
ouais.
Ils ont réécouté les bandes, ils ont vérifié sur les bandes toutes les dates, tous les noms, etc. Ça nous a apporté énormément d'informations sur la genèse des albums de Gainsbourg, sur ses collaborations, sur les musiciens qui ont travaillé avec lui. Et puis, il y a des recherches qui continuent, il y a des témoins qui n'avaient jamais beaucoup parlé ou qui n'avaient pas tout dit. Et puis, il émerge des choses parce que Gainsbourg a tellement travaillé. Et il a fait, et il a tellement échoué commercialement, parce que c'est une dimension de Gainsbourg qu'on oublie. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il n'a pas vraiment de succès, c'est pas vraiment une star. C'est pas le Gainsbourg qui va apparaître en 79 qui sera une énorme star dans toute la francophonie.
Et puis avant la musique, il y avait déjà eu quelque chose qui fonctionnait pas trop au niveau de la peinture, il n'y avait pas le succès qu'il imaginait.
Ah oui, oui, alors ça, la peinture, c'est la grande tragédie de sa vie, c'est le grand échec, non pas tant qu'il ait raté une carrière de peintre, mais il a raté son rêve d'enfance. Il voulait être peintre et il s'est obstiné pendant 10, 12 ans jusqu'à se rendre compte qu'il avait, sinon pas de talent, du moins comme il le disait lui-même, il avait de la technique, mais il n'avait rien à dire. Et c'est ça qui fait que, au fond, Gainsbourg a à la fois abandonné sans regret la peinture et il a regretté toute sa vie. Et une des raisons aussi de sa dépression des dernières années, parce que le Gainsbourg star, on sait bien qu'il est dépressif, qu'il va très très mal, et c'est pas uniquement l'alcool, il va très mal. Et s'il abandonne la peinture, c'est aussi parce qu'il se dit, quand il a 28, 30 ans, qu'il ne sera jamais un grand peintre avant d'avoir 50 ans. Or, il se trouve qu'il a du succès comme chanteur, il devient vraiment une star, il atteint vraiment le sommet à 50 ans. Et dans les dernières années de sa vie, il continuera à se poser la question de savoir s'il a bien fait d'abandonner la peinture ou pas.
Vous avez écrit donc déjà plusieurs ouvrages sur Serge Gainsbourg, vous avez travaillé sur plusieurs livres à chaque fois sur l'histoire de la musique. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, après avoir écrit ces plus de 1000 pages sur lui, que vous avez cerné réellement Serge Gainsbourg? Est-ce que vous avez cerné tout le personnage?
Oui, on a l'essentiel. C'est vrai que ce qui est le plus saisissant avec Gainsbourg, quand on travaille professionnellement dessus, ou quand on est fan, quand on commence vraiment à s'y intéresser, je pense que quand aujourd'hui on a 15 ans et qu'on se dit « tiens, je vais acheter tout Gainsbourg », on commence par acheter l'intégrale, et puis ça n'en finit plus. Il y a les films, il y a les musiques de films, il y a les collaborations, il y a le roman, il y a les publicités qu'il a réalisées. Il a écrit plein de choses, il a fait des livres de photos, il a travaillé pour des magazines, il a écrit des préfaces de livres, des préfaces de disques. Donc c'est vraiment quelque chose de gigantesque, plus effectivement le billet de 500 francs qui brûle à la télé, plus ce personnage dans l'actualité, ce personnage dans son temps qui provoque, qui a des scandales, qui a une vie de people absolument passionnante, et pas uniquement avec Jane Birkin puis Bambou. C'est vraiment une histoire immense, Gainsbourg. Et je dois reconnaître que moi j'étais fan de Gainsbourg quand j'étais môme, mais à la mort de Gainsbourg, j'étais journaliste professionnel et je ne me rendais toujours pas compte de l'immensité de son talent et de l'immensité de son héritage.
Et demain, ça fera 30 ans qu'il est mort.
Il y a un réel paradoxe. Comment on peut être si mal dans sa peau, vivre un tel mal-être à la fin de sa vie alors qu'il connaît la gloire à ce moment-là?
Je vous explique.
C'est ça, être artiste. Il faut bien reconnaître que si quelqu'un passe sa vie à faire ce métier si aléatoire, c'est qu'il n'arrive pas à faire des métiers comme les nôtres, à faire des métiers normaux. Mais ce qui, ça, c'est pas... C'est pas uniquement Gainsbourg. Énormément d'artistes ont vécu cela. Énormément d'artistes ont vécu se battre pendant des dizaines d'années, tous les jours, y songer toutes les nuits à toutes les insomnies, se dire j'y arrive pas, les gens me comprennent pas. Et puis quand on y arrive, soudain se trouver devant une espèce de vide. Faut réaliser aussi que Gainsbourg, quand il devient star, il a 51 ans. Et jusqu'à présent, il a été très méprisé. Très méprisé par les médias, très méprisé par ses confrères chanteurs, il faut bien le dire, hein. Très méprisé par les gens du métier. Faut savoir, moi je le raconte dans le bouquin, puisqu'on commence à voir vraiment les chiffres, que pendant longtemps, il était très mal payé par sa maison de disques. Il touchait très peu de royalties. Donc c'est aussi ça qui l'obligeait à faire plein de choses en même temps. Et soudain, en 79, il devient une star. Et on commence à lui payer des coûts, c'est-à-dire qu'il rentre quelque part, allez hop, on lui paye un verre, on lui paye un verre, on lui paye un verre, et il est vraiment comme un môme, il n'arrive pas à résister, donc il était déjà alcoolique, et là il sombre dans une espèce d'alcoolisme mondain, constant, permanent, tous les gens qui fréquentaient la nuit parisienne à l'époque, hein, people, journalistes ou simples fêtards, par contre, on voyait tout le temps Gainsbourg dans les boîtes de nuit.
Bon, et à cette époque, d'ailleurs, il n'était pas le seul. Justement, est-ce que Gainsbourg, aujourd'hui, le personnage tel qu'il était, c'est encore possible, d'après vous? Est-ce qu'on peut encore avoir un nouveau Gainsbourg maintenant?
Alors, évidemment oui, évidemment non. C'est-à-dire que Gainsbourg est aussi un homme dans son temps. C'est-à-dire que quand, dans les années 60, il prône une certaine forme de révolution sexuelle, en même temps, il joue réactionnaire en disant « j'interdirai à ma fille de porter les mini-jupes ». Donc, ce personnage-là, il peut encore exister, mais sur un mode différent. C'est-à-dire, peut-être pas en disant exactement la même chose. C'est sûr qu'aujourd'hui, en ce moment, on se demande est-ce que Gainsbourg écrirait Lemon Incest maintenant? Est-ce qu'on pourrait sortir Lemon Incest maintenant?
Est-ce qu'il parlerait à Whitney Houston comme il l'a fait sur le plateau de France 2, par exemple?
Mais en tout cas, il y a des choses qui l'existent pas.
c'est des mots, l'interview, le moment avec Whitney Houston, on n'imagine pas ça aujourd'hui sur une chaîne de télé, c'est pas possible.
Non.
Bah, à l'époque non plus, on n'imaginait pas.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
C'est quand même un moment, mais complètement dingue. Mais complètement dingue. Alors, un confrère américain m'a dit que cet extrait, ce moment, Gainsbourg avec Whitney Houston, n'est jamais passé sur une télé, sur un grand réseau américain.
Ah, ce serait un bip tout le long, c'est pas possible de diffuser
non,
ça aux États-Unis.
Tellement c'est offensant, tellement c'est inadmissible, tellement c'est inimaginable. Un monsieur blanc, manifestement ivre-mort, qui commence à tripoter les cheveux d'une jeune femme noire en prononçant des four-letter words, c'est totalement impossible.
Mais aujourd'hui, il serait poursuivi d'ailleurs pour ça.
Et à l'époque, ça a été extraordinairement choquant. Extraordinairement choquant, on l'oublie un peu.
Je voudrais qu'on s'arrête sur quelques chansons de Serge Gainsbourg. Alors évidemment, le livre fait plus de 1000 pages, on peut pas faire le tour de tout le livre ce matin. Mais un mot sur cette chanson, écoutez. La javanaise, et vous le dites dans votre livre, au début ça ne fonctionne pas cette chanson.
Ah, ne vous déplaise, la javanaise est un bide. C'est un bide. Il y a quelques années, quand j'avais travaillé sur une biographie de Juliette Gréco, j'avais vraiment passé 3 jours à la Bibliothèque nationale de France à chercher ce que, dans les grands journaux, la dizaine de grands quotidiens et la demi-douzaine de grands hebdomadaires français, on pouvait dire de la javanaise dont, je vous l'appelle, la chanson est écrite à propos de Juliette Gréco. C'est-à-dire que c'est une chanson qui parle de Juliette Gréco, de « Vous à moi, vous m'avez eu mon amour ». Oui, c'est Gainsbourg qui raconte qu'il a cru que c'était arrivé et que, bah, finalement, non, elle lui dit « Au revoir Serge, un autre jour ». Et donc, Gréco enregistre la javanaise juste après Gainsbourg. Et dans la version de Gainsbourg, comme dans la version de Juliette Gréco, cette chanson passe inaperçue. Il y a même un hebdomadaire qui chronique le 45 tours de Gainsbourg, qui parle des 3 autres chansons, mais qui ne parle pas de la javanaise. Hein? Et ce qui est complètement fou aujourd'hui, quand on entend cette chanson, et il se passe un moment décisif en 1985, quand Gainsbourg revient sur scène après presque 20 ans sans concert, à part les concerts reggae de 79, En 1985, au Casino de Paris, il se dit, je vais mettre la javanaise, oh ben non, je vais pas la mettre, oh ben je vais la mettre, oh ben non, je vais pas la mettre. Et puis, le premier soir, il chante la javanaise. Et là, le public allume les briquets, et le public chante la javanaise.
Ça, c'est
et
la
quand
folie.
Il sort de scène, Gainsbourg est en larmes, ouais. À la fin de la chanson, il n'est pas prévu qu'il aille dans les coulisses, mais là, il va dans les coulisses pendant les applos, et il pleure. 22 ans après, la javanaise est devenue un tube, alors que la chanson est passée inaperçue pendant des années.
Des histoires comme celle-là, il y en a plein dans le livre, tout Gainsbourg, c'est écrit par Bertrand Décale, et on vous retrouvera tout à l'heure, dès 11h et jusqu'à midi sur Viva Plus. Vous allez pouvoir commenter effectivement cette vie, cette carrière de Serge oui. Gainsbourg. Il y a une nuit spéciale Serge Gainsbourg demain soir, donc la nuit de demain sur Viva Plus également, à l'occasion des 30 ans de sa disparition. Et puis sur la une, dès 22h30 demain, il y a une soirée spéciale consacré à Serge Gainsbourg, la story Gainsbourg.
Avec les témoignages de Jane Birkin, de Charlotte, etc.
Soirée exceptionnelle. Très bien. Ouais. Merci d'être passé ce matin dans le 8-9 et à tout à l'heure sur Viva Plus. Alors,